Bienvenue à BetaFinch, votre analyse des résultats financiers générés par intelligence artificielle. Je suis Alex, et je suis ravi de vous accueillir pour une autre édition de notre podcast sur les bénéfices trimestriels. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Aujourd'hui, nous examinons les résultats impressionnants de Visa pour le deuxième trimestre de 2026. Et croyez-moi, il y a beaucoup à déballer ici.
Absolument, Alex. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai dû vérifier deux fois. C'est vraiment remarquable. Nous parlons d'une croissance des revenus nets de 17% et d'une croissance du bénéfice par action de 20%. C'est du solide, vraiment solide.
C'est exactement ça. Et voici ce qui rend ces chiffres encore plus impressionnants. Selon Ryan McInerney, le PDG de Visa, c'est la plus forte croissance des revenus nets depuis 2022. Si vous excluez la récupération post-pandémique et l'acquisition de Visa Europe, nous regardons la plus forte croissance depuis 2013.
Waouh! 2013 donc, nous parlons de plus d'une décennie sans voir ce type de croissance. Quels sont les chiffres absolus ici? Je veux vraiment comprendre l'ampleur.
Bien sûr. Les revenus nets ont atteint 11,2 milliards de dollars, en hausse de 17% d'une année sur l'autre. Le volume de paiement a augmenté de 9% pour atteindre 3,7 billions de dollars, et le nombre de transactions traitées a atteint 66 milliards. C'est énorme.
Et en ce qui concerne la rentabilité? Le bénéfice par action?
Les bénéfices par action ont atteint 3,31 dollars, en hausse de 20% d'une année sur l'autre, ce qui a surpassé les attentes. Et à titre de contexte de capital, Visa a effectué le plus grand rachat d'actions trimestriel de son histoire avec 7,9 milliards de dollars. Il distribue également 1,3 milliard de dollars en dividendes.
C'est la confiance, Alex. Lorsqu'une entreprise comme Visa exécute au-delà des attentes et rachète des actions à ce rythme, cela vous dit quelque chose sur la confiance de la gestion dans la trajectoire à long terme.
Absolument. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui a réellement conduit à ce dépassement. Chris Hsu, le directeur financier, a mis en évidence trois éléments clés. D'abord, la volatilité était meilleure que prévu. Deuxièmement, le portefeuille de services à valeur ajoutée a surpassé les attentes. Et troisièmement, les remises aux clients ont augmenté moins que prévu.
Parlons de cela. Services à valeur ajoutée, ou VAS, comme ils les appellent. C'est devenu un domaine vraiment important pour Visa, n'est-ce pas?
C'est énorme. Et voici le chiffre fou, les revenus VAS ont augmenté de 27% d'une année sur l'autre, en dollars constants, et représentent maintenant environ 30% du chiffre d'affaires net total de Visa. Pensez à cela. Il y a quelques années, ce n'était qu'une petite partie de l'entreprise, et maintenant c'est presque un tiers de tout ce qu'ils font.
Et Ryan a vraiment insisté sur le fait que cela est lié aux transactions, aux cartes et aux comptes. Donc, à mesure que le réseau de Visa se développe, ses services se développent avec lui. C'est un élément extraordinaire de leur modèle d'affaires.
Exactement. C'est ce qu'on appelle un avantage durable. Maintenant, il y a un autre concept qui a beaucoup été discuté lors de cet appel, le commerce agentique avec l'IA. Et c'est fascinant parce que c'est vraiment avant-gardiste.
Oui, c'est l'une des choses les plus intéressantes que j'ai entendues lors d'un appel de gain. Donc, dites-moi ce que je dois comprendre sur le commerce agentique.
Eh bien, imaginez une IA qui fait vos achats pour vous. Elle cherche le meilleur prix, optimise les transactions, divise même les achats en plusieurs transactions plus petites si c'est plus avantageux. Ryan argue que cela créera une multiplication massive du nombre de transactions. Mais plus que cela, cela créera une nouvelle catégorie de microtransactions.
Et Visa est positionné pour capturer tout cela?
Complètement. Visa soutient que trois choses leur donnent un avantage durable, le réseau, la sécurité et la confiance. Ils ont 175 millions d'emplacements de commerçants, 5 milliards d'identifiants dans 200 pays, et plus de 14 500 institutions financières qui participent au réseau.
Mais voici ce qui me frappe vraiment, les cartes. Ryan a précisé que contrairement à de nombreuses stablecoins, Les cartes offrent la confidentialité, la gestion de la liquidité en masse plutôt que de financer des millions de microtransactions en temps réel, et les avantages et récompenses. C'est un argument convaincant.
Et il a même lancé quelque chose appelé Visa Clean, preuve de concept qui permet aux développeurs de payer pour les services numériques directement via une interface de ligne de commande. C'est vraiment à l'avant-garde.
Passons maintenant aux stablecoins et aux paiements on-chain. Cela semblait également être un point d'accent majeur.
Oui, et c'était fascinant de voir comment il la positionne. Visa se voit comme une « couche d'interopérabilité » entre les stablecoins et les applications du monde réel. Ils ont actuellement plus de 160 programmes de cartes liés à des stablecoins avec des partenaires comme Rain et Reap. Le volume des paiements a augmenté de près de 200% d'une année sur l'autre au deuxième trimestre.
Attendez, 200% d'une année sur l'autre pour les stablecoins. C'est extraordinaire.
C'est incroyable, n'est-ce pas? Et maintenant, voici la partie vraiment intelligente. Visa utilise elle-même les stablecoins pour ses règlements internes. Ils ont actuellement un taux d'exécution annuel de 7 milliards de dollars en volume de règlements stablecoins, en hausse de plus de 50% depuis le trimestre précédent. Ils viennent d'ajouter 5 blockchains supplémentaires pour le règlement, ce qui porte le total à 9.
Donc, ils testent ces technologies dans leur propre infrastructure. C'est un signal puissant de croyance dans ce domaine.
Absolument. Maintenant, regardons les orientations à terme. Chris Hsu a augmenté l'orientation pour l'année complète, s'attendant maintenant à une croissance des revenus nets entre les bas et bas des doubles chiffres. C'est une augmentation par rapport aux attentes précédentes.
Et combien de cela est dû à la Coupe du Monde de la FIFA? Parce qu'il semble que cela obtient beaucoup d'attention.
C'est une très bonne question. Les services de marketing VAS vont clairement bénéficier des Jeux Olympiques d'hiver et de la Coupe du Monde de la FIFA. Mais Chris a noté que cette croissance marketing est durable. Il y a un « volant » où, à mesure que leurs clients prospèrent grâce aux activations Visa, les clients augmentent ensuite les dépenses de volume de paiement, ce qui profite à Visa. C'est un cycle auto-renforçant.
Parlons maintenant de ce qui s'est passé lors des questions-réponses, car il y a eu des sujets vraiment intéressants.
Oui. Tien-Tsin Wang de JP Morgan a posé une excellente question sur ce qui a réellement conduit au dépassement. Et Chris a détaillé les trois domaines clés, la volatilité supérieure à la moyenne, la force de VAS et les remises inférieures à la moyenne. C'était une désagrégation vraiment utile.
Et puis il y avait cette question intéressante sur le nationalisme des paiements.
Oh oui, Harshita Rawat de Bernstein a vraiment creusé là-dedans. Elle a demandé à Ryan comment il voyait les gouvernements cherchant à contrôler les infrastructures de paiement, en particulier en Europe. Et sa réponse était équilibrée. Il a noté que Visa a traité ces questions pendant des décennies. Ils ont une présence locale dans 38 pays européens avec plus de 6000 employés.
Et sa conclusion?
Il s'attend à plus de concurrence. Pas moins, mais il est convaincu que parce que les acheteurs et les vendeurs en Europe valorisent le réseau Visa, la marque et la confiance, Visa continuera de gagner plus que sa juste part. C'était une réponse sûre mais convaincante.
Très bien, Alex. Alors, quelle est votre conclusion? Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs?
Eh bien, Visa a clairement obtenu une croissance remarquable ce trimestre, surpassant les attentes à une grande majorité. La diversité de leur portefeuille des paiements à valeur ajoutée, des services, des stablecoins, du commerce agentique offre plusieurs trajectoires de croissance pour les années à venir. La gestion investit massivement dans l'innovation et livre des résultats.
Mais il y a des risques?
Bien sûr. Le conflit au Moyen-Orient a eu un léger impact sur la croissance du volume de paiements transfrontaliers en CEMEA, en baisse d'environ 2,5 points. L'évolution réglementaire autour des stablecoins et du commerce agentique est également une inconnue. Et il y a cette pression continue vers le nationalisme des paiements dont nous avons discuté.
Cela dit, le positif semble dépasser le négatif ici.
Tout à fait. C'est une entreprise avec une position de réseau formidable, une direction exécutive à forte conviction et plusieurs catalyseurs de croissance à long terme. Les résultats de ce trimestre le reflètent. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable.
Merci d'avoir écouté Beta Finch. C'est votre IA Powered Earning Breakdown.
À bientôt. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir Beta Finch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.